Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. De l'ivoire est toujours vendu illégalement en Europe par des trafiquants peu scrupuleux. Et ce, malgré la législation qui interdit tout commerce de ces objets datant d'après 1990. Une réglementation sans doute trop complexe et pas assez protectrice, si bien que le braconnage des éléphants persiste. Un collectif a donc lancé une étude et plusieurs initiatives dans différents pays européens, dont la Belgique. Pour sensibiliser pouvoirs publics et citoyens, la campagne intitulée « Sortez dents » prévoit de collecter tous les objets en ivoire afin de les détruire. Reportage à Bruxelles de Johanna Hochstein.
Hop, on met l'ivoire ici, comme ça, et on referme. Et voilà. Il y a une défense entière d'éléphants. Il y a également un crocodile sculpté en ivoire, un collier, des petits pendentifs, de nombreux bracelets en ivoire.
Joël Smets, porte-parole au ministère belge de l'Environnement.
Ce sont tous des objets que nous avons récupérés dans le conteneur mis à l'entrée de notre ministère.
Comme celle-ci, trois autres bennes ont été placées dans des parcs animaliers. En Belgique, le gouvernement belge souhaite en effet que les particuliers se débarrassent de leurs encombrants souvenirs. Joël Smets à nouveau.
Il y a beaucoup de Belges qui ont travaillé au Congo à une époque où le commerce de l'ivoire était absolument pas réglementé. Et ces personnes ont ramené des objets en ivoire, voire des défenses en ivoire entières dans leur bagage sans aucun problème. Ce n'est que maintenant que les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à ce que représente réellement l'ivoire, c'est-à-dire un éléphant mort. Il est impossible d'enlever une dent d'éléphant. Une défense, c'est bien une dent d'éléphant sans tuer l'animal.
L'opération a commencé il y a 2 mois et les autorités belges se félicitent d'avoir déjà récolté quelques 200 kilos d'ivoire. De l'ivoire qui sera détruit pour qu'il ne puisse plus être vendu et donc qu'il n'alimente pas le marché noir. En Europe, il est tout à fait légal de détenir des objets en ivoire, mais si vous souhaitez les vendre, alors cela se complique. Les législations varient d'un pays à l'autre. Il y a tout de même un cadre au niveau européen. Interdiction absolue de vendre des objets en ivoire récents, c'est-à-dire qui datent d'après 1990 pour éviter tout braconnage. Pour les objets travaillés entre 1947 et 1990, il faut absolument être muni d'un certificat délivré par les autorités nationales. Enfin, pour les objets antiques qui datent d'avant 1947, ils peuvent être vendus librement. Le problème est qu'il est très difficile de déterminer la date de l'objet en ivoire. Dans cette vidéo tournée à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, des scientifiques sont en train de tester l'ancienneté d'une centaine de pièces en ivoire achetées sur l'internet dans 10 pays européens. Résultat, un cinquième de ces objets sont issus d'éléphants tués après l'interdiction mondiale du commerce de l'ivoire, illégal donc. Les ONG de protection des animaux exigent une interdiction totale du commerce de l'ivoire en Europe, comme l'association américaine Wildlife Conservation Society, dont est membre Arno Gunsens.
Une des raisons pour lesquelles l'Union européenne était réticente à avoir une restriction de son marché de l'ivoire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de preuves qu'il y avait un marché illégal au sein de l'Union européenne. Donc cette étude montre que de l'ivoire qui est vendu comme ancien provient en fait d'éléphants qui ont été braconnés récemment. Et donc qui montre vraiment un lien entre le marché légal domestique de l'Union européenne et le marché illégal. Donc on pense qu'il faut aller plus loin, donc d'interdire vraiment l'ivoire brut et l'ivoire travaillé également, avec peut-être quelques exceptions pour des instruments de musique ou d'autres objets qui sont très anciens et qui pourraient être par exemple échangés par des musées.
Les antiquaires, quant à eux, sont inquiets. Interdire complètement le commerce des objets en ivoire n'est pas la solution. Selon eux, les pièces seraient vendues sur le marché noir, comme l'explique Patrick Mesdak, antiquaire à Bruxelles depuis 20 ans. Ce serait bien pire. Pour lui, il y a une autre solution.
Pourquoi ne pas taxer le commerce de l'ivoire, un petit pourcentage, 2 à 5%, de la valeur vendue, et je m'engage à le faire, à verser ces 5% si je sais qu'ils sont donnés à un organisme qui va véritablement défendre les éléphants. Aujourd'hui, il y a des touristes américains et autres qui peuvent aller en Afrique et qui, au menu de leur lodge, ont la faculté de tuer un éléphant, un lion, au prix de 20 ou 30 000 dollars, que sais-je. C'est dans le menu du lodge. C'est quand même invraisemblable.
La Commission européenne réfléchit en ce moment à un durcissement de la législation. Elle devrait faire connaître ses nouvelles propositions à la rentrée. Une chose est sûre, elle veut à tout prix réduire le braconnage. Chaque année, 20 000 à 30 000 éléphants sont chassés illégalement en Afrique. Un chiffre qui ne diminue pas malgré l'interdiction mondiale du commerce de l'ivoire.
Il fait chaud, très chaud ces jours-ci dans le nord de l'Europe, plus particulièrement en Suède. Une vague de chaleur inhabituelle et qui contraint les habitants et le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles. Pour en parler, on retrouve Frédéric Faux, un de nos correspondants à Stockholm. Bonjour.
Bonjour.
Alors ma première question va être simple. Quel temps fait-il chez vous ?
Eh bien, soleil et chaleur. Depuis samedi et pendant plusieurs jours, la température à Stockholm va osciller autour des 30 degrés. Même en Laponie, on dépasse les 25 degrés. Alors, ça peut vous paraître idéal pour un mois d'été, mais ça n'a rien d'habituel pour un été suédois. En juillet, à Stockholm, il fait plutôt entre 15 et 20 degrés. Il peut aussi pleuvoir abondamment. Or, cette météo exceptionnelle a commencé en mai. Les météorologues ont eu le temps de se pencher sur ce qui s'est passé en ce début de printemps, où la moyenne des températures à Stockholm atteignait déjà les 16 degrés, soit 5 degrés de plus que la normale. Et ils en ont conclu qu'un tel événement climatique ne se produisait qu'une fois tous les 300 000 ans.
On comprend que c'est vraiment un épisode hors du commun. Quelles sont les conséquences sur la population ?
Eh bien, ce qui frappe ici, c'est que les Suédois doivent maintenant s'habituer à des consignes que l'on pensait réservées à l'Espagne ou au sud de la France. Dans certaines communes, il est interdit d'arroser sa pelouse ou de remplir sa piscine. Dans les forêts, où les risques d'incendie sont maximum, les barbecues sont prohibés. Rien qu'au mois de juin, ce sont 2000 feux de forêt qui ont été signalés. À la télévision et à la radio, des consignes sont aussi données aux personnes âgées qui doivent s'hydrater et rester à l'ombre. Alors, dans des agglomérations comme Stockholm, où l'on peut se baigner en plein centre-ville, cette sécheresse est plutôt une bonne nouvelle. Les citadins se pressent sur les plages et certains ont même annulé leur voyage à l'étranger pour mieux en profiter. Dans les campagnes, la situation est plus critique. Les nappes phréatiques s'épuisent, le bétail n'a plus de fourrage et des éleveurs dans le sud du pays commencent à abattre leurs troupeaux qu'ils ne peuvent plus nourrir. Les autorités suédoises sont préoccupées par cette situation. Elles viennent même de demander une aide d'urgence à l'Union européenne.
Cela veut dire que dans un pays comme la Suède, où on n'avait pas à se préoccuper auparavant de la sécheresse, on est moins préparé que dans d'autres pays européens ?
Ouais, c'est vrai. Ailleurs en Europe, ces phénomènes existaient et c'est juste leur fréquence qui est plus importante. En Suède, on pourrait presque dire, à quelques exceptions près, que l'on découvre ces étés torrides. Ici, les paysans, qui sont les plus touchés, n'ont jamais eu besoin, par exemple, de retenue d'eau pour irriguer leur culture. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'une des conséquences, d'ailleurs, de ce réchauffement climatique en Suède va être dans les campagnes, où des investissements importants viennent d'être annoncés par le gouvernement. Aujourd'hui, la Suède ne produit que la moitié des aliments qu'elle consomme. L'idée est de faire passer ce taux à 80%. En s'adaptant à ce réchauffement, en adaptant les cultures. La Suède était peut-être moins préparée que les autres à ce changement climatique, mais elle a décidé aujourd'hui de le prendre vraiment au sérieux.
Merci Frédéric Faux à Stockholm.
I wasn't really looking for a lot of customers. I was really concentrating, I think rightly, on getting the workings right, getting the food right, the staff right, the service right, getting organized.
Elle est peu connue hors des frontières d'Irlande et pourtant cette femme a créé un empire. Myrtle Allen était mère de famille et femme de fermier avant de lancer son restaurant, de recevoir une étoile au Michelin en 1975 et de fonder une marque de sauce à succès du nom de Ballymallow. Elle s'est éteinte à 94 ans. Son portrait signé Julien Lagache.
Myrtle Allen ne semblait pas destinée à une carrière dans la gastronomie, mais tout semble l'y avoir poussé peu à peu, à commencer par son mari.
mari lorsque le couple achète en 1948 la ferme de Ballymallow près de Cork. Ivan Allen aurait persuadé sa femme de trouver des recettes originales à mitonner pour nourrir quotidiennement leurs 6 enfants à partir des fruits et légumes disponibles à la ferme familiale. C'est sans doute ce qui a marqué la philosophie de Myrtle Allen, qui ne jurait que par l'excellence des produits locaux de saison, biologiques et savoureux. Cela semble assez commun de nos jours, mais à l'époque c'était assez révolutionnaire, avait estimé le chef Jerry Galvin, pour qui l'Irlande des années 60 considérait les produits importés de meilleure qualité. Les enfants partis, Myrtle Allen refuse de délaisser la cuisine et décide en 1964 d'ouvrir un restaurant dans l'une des salles à manger de la propriété, avec pour seule publicité une petite annonce dans un journal local. La maison de Ballymallow était née, avec au menu des plats locaux différents tous les jours. Le succès de sa table a tôt fait de transformer toute la propriété en hôtel-restaurant à la réputation intacte, qui sert aussi d'école de cuisine où la nouvelle vague culinaire de Dublin a fait ses armes. Aujourd'hui encore, le manuel de cuisine de Myrtle Allen et la centaine de recettes qu'il contient restent d'ailleurs une référence dans le paysage gastronomique irlandais 40 ans après sa publication. Et au quotidien, les Irlandais croisent aussi régulièrement le nom de Ballymallow, devenu une marque de sauce, dont le célèbre coulis de tomates qui allie l'acidité du vinaigre balsamique à la douceur des raisins secs et d'oignons marinés. Mais il faut se rendre au restaurant du sud de l'île pour goûter le potage à l'ail des ours, la salade de fleurs à la moutarde et au miel ou encore les crêpes au beurre d'orange.
La Grèce, le Péloponnèse, immense champ d'oliviers gorgés de soleil, des oliviers qu'il faut tailler plusieurs fois par an et qui produisent donc des déchets, du petit bois qui jusqu'à maintenant n'était pas valorisé. Mais un entrepreneur a eu l'idée, avec l'aide de fonds européens, de monter une usine. Elle transforme ces déchets en pellets, des petites billes qui servent de combustible pour les poêles à bois, ou en briquettes qui chauffent mieux que le bois simple. C'est un reportage de Charlotte Stevenard.
Il faut traverser tout le Péloponnèse pour arriver dans cette petite entreprise familiale dans le village de Rora. À l'entrée du hangar, on trouve un énorme tas de bois d'olivier, 200 tonnes très exactement, la matière première de l'entreprise Ecomads. Du bois qui sera ensuite transformé en briquettes et pelé pour poêle à bois. Nikos Pavlopoulos, chef d'entreprise, nous fait la visite.
Oui, là, c'est le broyeur.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Il broie les morceaux de bois impropres à la consommation, ceux qu'on avait l'habitude de brûler jusqu'alors. Ensuite, on arrive au séchoir.
Ce grand cylindre ?
Là, vous voyez, il y a la flamme. La matière arrive d'abord ici. Le séchoir tourne sur lui-même, puis le bois traité est orienté vers deux directions différentes. Ça dépend s'il est transformé en pellet ou en briquette.
Pas de produits chimiques, pas de pressage, l'humidité disparaît du bois grâce au séchage. Sous forme de briquette, le bois d'olivier a un pouvoir calorifique deux fois plus important que sous forme de bois de chauffage. Assis sous un arbre à l'extérieur de l'entreprise, Nikos Pavlopoulos nous raconte comment il a eu l'idée. Après avoir été chauffeur de taxi, puis commerçant, il est devenu entrepreneur.
Avant, on avait un magasin à Athènes, une mercerie. Ensuite, on a dû fermer après la crise. On vendait des petites choses à 1 euro. Mais avec la crise et la concurrence, des grandes chaînes de magasins, on ne s'en sortait plus. Et comme j'ai des champs ici, qui me viennent de mon père, nous sommes venus. Et toute cette matière première, eh bien, ça nous a donné des idées.
Nikos Pavlopoulos achète le bois aux agriculteurs du coin, comme au vice-président d'une coopérative appelée Nilea, qui produit de l'huile d'olive. Dimitris Dimitrakopoulos nous emmène voir ses champs.
Cette entreprise est importante car un bon pourcentage du bois d'élagage n'est pas commercialisable. Les morceaux de bois de petit diamètre, c'est-à-dire de moins de 8 cm, ne peuvent pas être vendus. Ils sont trop fins pour les cheminées, mais parfaits pour l'entreprise Ecomazza.
Cet agriculteur passionné ne tarit pas d'éloges sur le bois d'olivier.
Le bois de l'olivier a une valeur thermodynamique plus importante. Il chauffe plus, mais aussi la grande différence avec les autres bois, c'est que comme il faut le tailler, il nous donne du bois chaque année. Il se renouvelle donc sans faire de dégâts sur l'environnement. Nous n'avons pas besoin de planter des arbres, d'attendre 5 ou 6 ans qu'ils grandissent, de les couper, ensuite de les replanter. Ils sont là, nous récoltons les olives pour faire de l'huile et en même temps, ils nous donnent ce bois que vous voyez.
Aujourd'hui, à Ecomazza, Nikos Pavlopoulos travaille avec son fils. Ils produisent environ 300 tonnes de briquettes par an et 300 tonnes de pellets. Mais la concurrence sur ces dernières est rude.
On n'essaie pas de produire plus de pellets car nous faisons face à des produits qui arrivent de Bulgarie. Des produits très différents, de qualité moindre, à base de déchets industriels, etc. Ça fait qu'on n'arrive pas à être concurrentiel sur ce marché.
Avec des coûts de revient 2 à 3 fois supérieurs en Grèce face à la Bulgarie, l'entrepreneur ne pourrait pas s'en sortir. Certains de ses collègues ont délocalisé, mais lui tient bon. Pour s'équiper, il a reçu une aide européenne, pas toujours efficace cependant.
C'est important, mais il faudrait qu'il soit mieux distribué, de façon plus organisée, que l'argent soit donné plus en amont, sans que j'aie besoin de tout payer à l'avance et attendre d'être remboursé.
Des délais qui se comptent parfois en années, la faute au mode de fonctionnement des aides européennes, mais aussi à l'administration grecque qui tarde à faire les versements, selon Nikos Pavlopoulos.
On connaît Turin pour son club de football, son passé industriel, son impressionnant dôme ou encore son musée consacré à l'égyptologie. On sait moins que la ville est aussi l'une des capitales de l'ésotérisme mondial. Promenade sur les traces de Turin, la magique, avec Cécile Debarge.
Turin a une localisation bien particulière. Elle se trouve au centre de 2 triangles de magie, c'est-à-dire au centre des repères déterminés par les amateurs de paranormal pour désigner les villes dont l'histoire est porteuse d'énergie particulière. Avec Londres et San Francisco, elle forme donc le triangle mondial de la magie noire et avec Lyon et Prague, celui de la magie blanche. De quoi en faire la capitale italienne de la magie. La plus grande académie d'ésotérisme du pays a d'ailleurs ouvert à quelques kilomètres au sud de la ville, à Moncalieri, et Turin héberge régulièrement le festival d'ésotérisme européen. Le décor est donc idéal pour exhumer légendes et anecdotes insolites dans les lieux mythiques de la ville. Piazza Statuto, d'abord considérée comme le cœur de la Turin maléfique, c'est là qu'avaient lieu les exécutions des condamnés à mort et l'entrée des enfers serait située sous la place. La grande fontaine qui se situe au centre de la place est surmontée d'une statue d'un ange au trait sombre. Pas de doute, pour les amateurs d'ésotérisme, c'est Lucifer qui a été représenté. Il est surmonté d'une étoile à 5 branches, souvent considérée comme l'un des attributs du diable. Les adeptes des messes noires y sont tellement nombreux que la mairie a dû restaurer 2 cimetières trop abîmés par les cérémonies magiques. Mais Turin a un autre visage, celui des énergies positives de la magie blanche dont l'épicentre est la Piazza Castello et à 2 pas, le dôme qui abriterait le Saint-Suaire, c'est-à-dire un morceau de tissu qui aurait permis d'envelopper le corps du Christ après sa mort. Même si cette hypothèse a été démentie par des analyses scientifiques, le mythe perdure. Et puis, il y a le musée égyptien, l'un des plus grands du monde, où se trouvent des momies millénaires. La légende raconte aussi que sous la ville se trouvent les 3 grottes de l'alchimie, dont la localisation précise reste secrète. Mais pour qui connaît l'entrée, notamment les alchimistes de tout le pays, il s'agirait d'un espace de rencontre avec l'au-delà où l'on peut changer le cours du temps. Cerise sur le gâteau, le célèbre apothicaire Nostradamus, connu pour ses prédictions, notamment sur la fin du monde, y aurait séjourné. En réalité, l'explication est à chercher dans l'histoire. Au XIXe siècle, la monarchie de la Maison de Savoie, qui régnait sur la ville de Turin, faisait preuve d'une plus grande tolérance religieuse que ses voisins, favorisant ainsi l'émergence de petits groupes qui ont développé des cultes ésotériques de toutes sortes.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de la Direction Générale de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission Européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux, rubrique émission et Accent d'Europe. À demain.